l'arrivée de l'Algérie en France, ce qui restait d'esprit critique dans les médias français a totalement été disparu. Le pouvoir algérien a acheté, mais acheté avec de l'argent, tout ce qui compte comme pouvoir médiatique et politique en France. Depuis, on n'entend plus rien sur l'Algérie, sauf de petites dépêches comme ça, de petites brèves, pour dire que c'est un pays qui existe encore, parce que c'est un pays en voie de disparition. Aujourd'hui, l'Algérie est... Les émeutes qu'on a vues dans les banlieues il y a quelques semaines, c'est le quotidien de l'Algérie. Il n'y a pas un jour en Algérie où il n'y a pas ça dans une ville, dans une grande ville. Et dans la presse algérienne, aujourd'hui, on en parle, tout ça. En France, rien de tout ça. Bon, c'est sur la situation actuelle. Il y a, avec l'augmentation du prix du pétrole, il y a des milliards et des milliards qui sont tombés sur l'Algérie. Il y a une réserve en l'espace d'un an et demi, 100 milliards. 100 milliards de dollars. Et ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne savent pas quoi faire avec. Le baril de pétrole est à 60 euros. Le Premier ministre a fait passer son budget récemment sur la base d'un dollar à 19, d'un baril de pétrole à 19 dollars. Le baril est à 60 dollars et il fait un budget à 19 dollars. On lui dit, pourquoi vous faites ça? Il a dit, moi j'ai été habitué à faire des budgets à 9 dollars, je ne vois pas pourquoi je vais en faire un à... C'est un état en déliquescence totale. La seule chose qu'il sait faire, c'est mettre de l'argent sur la table et dire, allez, ceux qui veulent nous soutenir, ben, servez-vous. Évidemment, toutes les sociétés françaises, si vous lisez la presse dans Le Monde, par exemple, vous allez voir que l'Algérie est devenue un Eldorado pour les petites et moyennes entreprises françaises. L'Algérie est un Eldorado, c'est dit comme ça. Et vous passez 4 ou 5 pages plus loin et on vous dit que l'Europe, la France est devenue un Eldorado pour tous les peuples d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Il y a un problème. La France, l'Europe est un Eldorado pour ces peuples d'Afrique. Et l'Algérie est l'Eldorado pour les sociétés, pour les entreprises françaises. Où est l'explication? L'explication, on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'en parler. L'explication, c'est qu'il y a un peuple qui ne compte pas, il y a une minorité qui a tout, et il faut, pour que tout ça paraisse logique, on n'en parle pas. Bon, alors, pour revenir au contenu du livre, bien, justement, pendant les années 90, personnellement, je regardais les sujets qui traitaient de l'Algérie, du terrorisme. Personne n'aime le terrorisme, personne n'aime l'extrémisme, personne n'aime la violence. Mais on a quand même envie de connaître la vérité. Et quand on vous raconte des mensonges flagrants tous les jours, ressassés sur toutes les chaînes, sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur M6, partout, sur toutes les radios, sur tous les journaux, l'Algérie a basculé dans le terrorisme. L'Algérie tout entière, un peuple, quelques semaines auparavant, c'était un peuple sympathique, fréquentable et tout, d'un seul coup, c'est devenu un peuple barbare. Et tout le monde acceptait ça. Donc, bon, pendant une dizaine d'années, il y avait impossibilité absolue de dire quoi que ce soit parce que on tuait des gens et tous les soirs on voyait des massacres affichés sur toutes les chaînes de télévision et à chaque fois quelqu'un essayait de dire attendez, c'est tout ça, si on veut mettre fin à ça, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Maintenant, vous soutenez des islamistes. Si vous voulez connaître la vérité, ça veut dire que vous soutenez des islamistes. Donc, vous soutenez le terrorisme. Donc, vous n'avez pas le droit à la parole. Donc, j'ai participé avec Jean-Baptiste Rivoire à un sujet que vous n'avez pas vu, sur l'assassinat du chanteur Kabil Ounes Matoub, qui était aussi attribué aux islamistes, et qui est une opération des services secrets algériens. À chaque fois qu'on a essayé d'enquêter sur quelque chose, on est parti avec l'objectif de prendre les éléments dont on disposait et de creuser un peu plus. Et chaque fois qu'on creuse, à un moment donné, on tombe sur le DRS. Le DRS, c'est le département de renseignement et de sécurité en Algérie. C'est l'équivalent de la DST en France. Alors, ils sont derrière la plupart des grandes opérations qui ont fait la une des médias. Voilà, donc à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est bien de faire des sujets comme ça qui passent à la télévision, qui sont regardés par une minorité de personnes qui ont le câble, qui ont Canal+, mais ce serait bien de rassembler tout ça et d'en faire un ouvrage. Donc, on avait un certain nombre d'éléments, on les a rassemblés, puis on s'est aperçu que pour comprendre vraiment ce qui s'est passé durant les années 90, il fallait remonter un petit peu en arrière pour voir ce pouvoir-là, d'où il vient. On s'est aperçu que ce pouvoir, en fait, il est arrivé au pouvoir à la mort de Boumediene au début de, en 1979. Et à cette époque-là, ils ont placé une marionnette qui s'appelait Shadi Ben Jedid, qui était le président, mais le pouvoir réel était derrière, caché. Et c'est ce pouvoir-là qui s'est manifesté ouvertement en 1992 en prenant le pouvoir comme une junte militaire avec un coup d'État affiché, soutenu directement par Mitterrand. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement le procès de Jean-Charles Marchiani, qui commence à parler et il subit la même omerta que celle qui était la nôtre à cette époque-là. Chaque fois qu'il essaie de dire quelque chose qui dévie du cadre où on veut tenir son procès, c'est-à-dire que c'est un corrompu et qu'il a touché des pots de vin, on lui dit « ça ne nous intéresse pas ». Donc il a dit par exemple que sur les moines tibérines, Alain Juppé a du sang sur les mains. Ça devrait intéresser la presse française, ça. Ah, rien. Il y a la justice française. Ça se passe dans un palais de justice. Et il dit, Alain Juppé, dans l'affaire de l'assassinat des moines de Tibérine, a du sang sur les mains. Bref. Donc, on a trouvé que ce pouvoir-là a commencé à s'installer au début des années 80. Et puis, d'où ils sortent, ces gens-là ? On s'est aperçu que c'est une équipe qui, pendant toutes les années 70 ou les 60 et 70, où l'Algérie était censée être un pays socialiste, etc., ces gens-là accumulaient des fortunes colossales. Tous les monopoles de l'État, eux, en cachette, ils arrivaient, ils récupéraient les bénéfices, et puis c'est des sociétés qui étaient financées par l'État, donc ils ne pouvaient pas faire faillite, c'est des sociétés publiques. Donc, l'État finançait, et puis eux, ils tiraient les dividendes. Ils prenaient, par exemple, ils récupéraient il y a une société qui s'appelle Onaco, qui avait le monopole sur l'importation de tout ce qui se mange en Algérie. Et ces gens-là récupéraient les produits, les vendaient, et ils ne payaient jamais l'Onaco. Et l'Onaco faisait faillite. Donc, ils ont amassé des fortunes colossales et durant les années 80, avec le Chadli, ils ont essayé, ils étaient au pouvoir, ils ont essayé de faire apparaître, de libéraliser l'économie pour pouvoir faire fructifier et faire passer au grand jour ces fortunes qui étaient acquises par le vol, directement. Et d'où est-ce qu'ils venaient, ces gens-là ? On s'est aperçu que pour la plupart, ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle des déserteurs de l'armée française. C'est des gens qui, durant la guerre d'Algérie, la guerre contre la France, étaient dans l'armée française, c'était des sous-officiers, des officiers de l'armée française. Certains étaient encore officiers de l'armée française en 1962. Et au dernier moment, voyant que à partir de 1958, l'Algérie s'acheminait vers l'indépendance, tout le monde le savait. Donc, ces gens-là, au dernier moment, ils sont ralliés à l'armée des frontières. Ils étaient à l'extérieur, hein, ils n'ont jamais eu à se battre d'aucune façon. Donc, ils ont infiltré toutes les structures du FLN. C'était les seuls qui étaient lettrés. La plupart des maquisards du FLN étaient des gens qui n'avaient aucune instruction, qui savaient, très peu savaient écrire, et eux, c'était des officiers. Donc, c'était très facile d'occuper des postes importants dans la hiérarchie. Et voilà. Donc, durant les années 80, ils ont infiltré tout le ministère de la Défense, les services de renseignement. En 80, ils sont au pouvoir. Mitterrand décide de réchauffer les rapports avec l'Algérie. Commencent des rapports économiques entre la France et l'Algérie. En France, c'est une démocratie, une économie qui fonctionne selon un certain nombre de règles transparentes. De l'autre côté, c'est des dictateurs, des corrupteurs et des corrompus. Donc voilà comment, petit à petit, une sorte une petite minorité de corrompus et de corrupteurs des deux côtés de la Méditerranée ont accaparé l'économie algérienne. Et au milieu des années 80, il y a eu les attentats en France. Il y a eu des attentats en France. Il y a eu au Liban des journalistes qui ont été enlevés et les services algériens qui étaient un petit peu dans les coulisses de tous les mouvements révolutionnaires de l'époque ont proposé à la DST de les aider à faire libérer les otages français. Donc, petit à petit, les services algériens et les services français sont devenus pratiquement une organisation unique. Et durant les années... après 88, bon, je vous fais ça très, très rapidement. Hein, donc, officiellement, il y a eu des émeutes en 88 et la population demandait qu'on libère le pays sur le plan politique. La réalité, c'est que, voyant que le pays allait exploser, au niveau de la présidence, ils ont décidé d'anticiper sur les émeutes et de les provoquer. Et l'objectif, c'était de libéraliser l'économie, mais en maîtrisant tout. C'est-à-dire, on libéralise l'économie, mais c'est eux qui ont les fortunes, c'est eux qui ont les leviers. On présente une sorte de démocratie de façade, avec des partis qui sont à leur solde. Donc, un multipartisme qui est le parti unique, mais explosé. Donc, une démocratie de façade. Le problème, c'est que en 88, pour faire ça, ils ont dû tirer à la mitrailleuse lourde sur des jeunes qui manifestaient dans la rue. Il y a eu un millier de jeunes qui ont été tués avec des armes de guerre, des chars et tout. C'est Khaled Nezar qui commandait l'opération, celui qui a dit « Allez-y voir Chirac qui vous dira ». Ce qu'il dira, je l'assumerai. Et la population tenait absolument à profiter de cette occasion pour vraiment installer une démocratie. Et ce régime-là ne peut pas s'accommoder d'une démocratie parce que très rapidement, on découvrirait l'origine de leur fortune, on découvrirait leur massacre, on découvrirait tous leurs méfaits. Et c'est des gens qui sont tous des candidats au tribunal pénal international. Donc, il est hors des questions que l'Algérie se transforme en démocratie. Comment faire? Présenter un épouvantail, l'islamisme politique et donc l'islamisme radical. Alors, il y a une composante, donc comme dans toute société, il y a une composante radicale, hein, et il y a une composante islamiste en Algérie. Donc l'islamisme est réel, et parmi ces islamistes, il y a évidemment des individus qui sont prêts à organiser des attentats, mais cela relevait à l'époque d'une minorité. Alors, ce que ce régime a fait pendant 3 ans, c'était faire en sorte que toute l'expression démocratique en Algérie soit marginalisée, éliminée, poussée à l'écœurement, manipulée, récupérée. Ceux qui pouvaient récupérer, ils les récupéraient. Ceux qui pouvaient exiler, ils les exilaient. Ceux qui pouvaient... Bon, en 1991, il restait très peu de forces démocratiques. Mais il y avait quand même... Il y avait quand même par un hasard un peu extraordinaire, qu'on explique longuement dans le livre, un certain nombre d'individus sont arrivés à la tête du gouvernement. On les appelait les réformateurs. Alors, au départ, on les avait placés à ce niveau-là pour justement gérer cette démocratie de façade qu'on allait présenter. C'était ce qu'ils appellent l'infitah à l'égyptienne, un peu ce qui se passe actuellement en Tunisie, où on a une minorité qui détient tout, des partis politiques, et une minorité qui détient l'intégralité des richesses du pays. Mais pour la consommation internationale, présenter une sorte de façade démocratique. Et ce gouvernement des réformateurs s'est donné pour mission, c'est 2-3 personnes. Hein. C'est un gouvernement avec beaucoup d'individus, mais ceux qui dirigeaient ça étaient 2 ou 3 personnes. C'était le premier ministre, Mouloud Hamrouche, qui était un ancien chef de protocole de Boumedienne, et son ministre d'économie qui s'appelle Razi Hidoussi, qui est exilé ici en France en ce moment. Et ils ont vraiment essayé de mettre en place des structures démocratiques. Donc, assainir l'économie, mettre fin aux services secrets tels qu'ils fonctionnaient, libérer la presse, etc. Donc tous leurs chantiers ont été sabotés, mais il y avait un chantier sur lequel ils réussissaient, c'est celui de l'économie. Et à un moment donné, ces généraux, voyant que ce régime était sur le point de réussir son coup, il dit, bon, il faut qu'on organise rapidement les élections. Normalement, ils avaient encore une année. Il dit, bon, on va les faire dans 6 mois. Alors, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, lui dit, bon, ben, pourquoi les faire c'était un an et demi. Il lui dit, bon, ben, on les fait carrément, c'était en décembre 90. Il dit, ben, on organise les élections en juin 91. Donc, pour essayer de prendre de vitesse, ils ont bien compris qu'ils étaient en sursis, donc pour prendre de vitesse les manœuvres. Donc, le 27 juin 1991, la première élection législative plurielle en Algérie était organisée. Et ce gouvernement hamrouchien avait un appui de taille, c'était le parti du FFS d'Aït Ahmed. Donc les forces, c'était le parti d'Aït Ahmed, le FLN, donc il y avait le FFS, le FLN, le FIS, c'était les 3 composantes politiques sur le terrain. Mais le FLN avait été réformé, c'est-à-dire pris en charge par ces réformateurs-là, et ils ont mis à sa tête un homme qui voulait inscrire le FLN dans la démocratie. Et une coalition se préparait entre le FLN démocratisé et le FFS, pour lesquels on donnait à peu près 55% des voix. Et le FLN, et le FIS, qui avait une expérience d'une année de gestion des municipalités, qui a été un échec colossal, commençait à être discrédité. On lui offrait, on prédisait un maximum, mais vraiment si, en brassant très très large, un maximum de 30%. Et il y avait de fortes chances qu'avec la désaffection due à une gestion calamiteuse des municipalités, ça tombe à 20. Donc les islamistes allaient perdre. Et qu'est-ce que le régime fait? Donc les élections devaient avoir lieu le 27 juin. Le mois de mai, un mois avant, il pousse les leaders islamistes Abbasi Madani, et les manipule par leurs seconds, qui sont des officiers de DRS. Vous voyez, à tous les niveaux, il y a des officiers du DRS. Et les seconds des grands chefs du FIS, Abbasi Madani et Ali Ben Hajj, étaient, leurs noms sont connus, hein, Merrani, Bachir Fkir, etc. Ils les ont manipulés, poussés à organiser une grève générale. Et ils demandaient des présidentielles. Ils voyaient qu'ils allaient perdre aux législatives. Ils ont dit, on ne va pas organiser des législatives, nous on veut une présidentielle. Grève générale. Personne n'a suivi la grève générale. À Alger, les seuls qui ont suivi, c'était les éboueurs qui dépendaient des municipalités FIS, mais sinon, tous les Algériens étaient contre cette grève-là. Et le FIS était sur le point d'être complètement discrédité. Il y a des pourparlers avec le gouvernement pour qu'ils mettent fin à la grève sans perdre la face. Donc le gouvernement Hamrouch leur dit, bon, on va couper la poire en deux, on va pas vous ridiculiser, mais vous allez garder encore quelques places où vous pourrez manifester, mais ça allait se régler, et c'est ce jour-là que général Nezar envoie ses militaires sur ces places qui il y avait un millier de personnes dans toute l'Algérie, sur plusieurs places à Alger, et lui leur envoie l'armée en plein milieu de la nuit, ça tirait de partout. Et les images qu'on a vues, c'était ça. On avait l'impression que l'Algérie sombrait dans la guerre civile, alors que c'était quelques centaines d'individus qui auraient pu être arrêtés par la brigade de police. Je suis très très bavard. Voilà. Voilà. Donc, à ce moment-là, état de siège. Donc, on supprime, on annule les élections de juin, puisque on est en état de siège, on ne peut pas organiser une élection libre. Et de juin à décembre, il y a un gouvernement qui est nommé et qui s'est organisé pour mettre fin aux dernières. Enrayer les dernières démarches démocratiques. Et en décembre 91, il y a eu l'élection où la seule force sur le terrain, le gouvernement, l'État, offrait au FIS des bus pour ramener des manifestants de toutes les régions d'Algérie pour la marche du FIS à la veille de l'élection. Et bon, ce jour-là, il y a eu quelque chose comme 60% d'abstention. Les seuls qui sont partis voter, ce sont les sympathisants du FIS. Donc, voilà. Officiellement, le FIS gagne, mais pas au premier tour. Il faut un deuxième tour. Donc, les chiffres sont probablement pipés pour permettre qu'il y ait un deuxième tour, donc pour donner 3 semaines à la manipulation de se faire. Et Mitterrand, il y a des pourparlers entre Mitterrand et les généraux, et Mitterrand donne son aval, vous interrompez le processus électoral. Et tous les partis démocratiques sont laminés, il reste les islamistes. Les islamistes, il y a les islamistes modérés et les islamistes radicaux. On élimine progressivement tous les islamistes modérés. À un moment donné, il ne reste plus que sur le terrain que les radicaux. Et à ces radicaux islamistes, il y a tout l'appareil répressif algérien, le DRS, à partir de 1995, il ne reste plus dans les maquis algériens de maquis fils islamistes autonomes. Pendant 2-3 ans, il y a cohabitation dans les maquis entre des maquis purement islamistes et des maquis purement DRS, des mélanges des deux, des islamistes qui sont chapeautés par des officiers du DRS. Et à partir de 1995, il reste pratiquement plus que les services secrets algériens dans les maquis. Et c'est à partir de là que la violence qu'on a vue durant les années 90, la barbarie qui s'est abattue sur l'Algérie est l'œuvre des services algériens. Et où est la France derrière ça? À chaque fois que le régime s'est retrouvé dans une situation un peu périlleuse, l'État français est venu lui donner un coup de main. Et à chaque fois, les seules fois où la France, sous Juppé, a dit non, on ne peut pas laisser ça se faire sans réaction, les bombes ont commencé à exploser en France. Voilà, en gros. Et les grands responsables politiques français le savent, tous les médias le savent, tous les juges antiterroristes le savent, tout le monde le sait au sommet, mais il ne faut pas que le bon peuple soit embêté avec ce genre de considération. C'est plus simple de dire que ce sont des islamistes. Alors, à partir de 98, je finis avec ça. En 98, le GIA, dont on a vu que c'est une organisation écran du DRS algérien, de la sécurité militaire algérienne, avait commis des massacres en 97 et 98 abominables hein, dans la périphérie d'Alger, Bentalha, Raïs, Beni Messous, etc. En une nuit, on égorgeait 400 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 400 personnes. En une nuit, des femmes, des enfants, des fillettes, des vieillards, on les égorgeait, on les égorgeait, on les égorgeait. Et l'armée est à 400 mètres de là. Et à chaque fois que des gens à Bentalha, des gens réussissaient à fuir le lieu des massacres et l'armée les refoulait vers le lieu des massacres. Il y a une foule de témoignages qui attestent que l'armée a au moins protégé les massacres. Et ça, une commission d'enquête internationale, en 24 heures, elle ramasse 1 million de témoignages. On voit par exemple ce qui se passe en Libye, au Liban. Un bonhomme a été assassiné. Commission internationale, l'ONU envoie son truc, Rafik Hariri. Et sur la base de soupçons, on dit la Syrie est impliquée là-dedans. Le rapporteur de cette enquête-là dit, c'est pas possible que les services syriens ne soient pas informés. Et ça suffit à attester la culpabilité de la Syrie. En Algérie, c'est pas un bonhomme, c'est 200 000 personnes qui sont tuées et pas besoin d'enquête internationale parce que l'Algérie est la menace terroriste international principal. Donc à partir de 98, le GIA ne pouvait plus perdurer parce qu'il s'est fait trop voir. On l'a éliminé et on a créé une autre organisation, ça s'appelle GSPC. Et maintenant, aujourd'hui, quand Hier, par exemple, sur France 2, Pujadas fièrement disait « On a la preuve que la menace terroriste existe, donc que les lois antiterroristes sont justifiées. » C'est le GSPC algérien. GSPC, c'est quoi ça, cette preuve? On ramène un bonhomme qui parle, qui dit « Voilà, on a reçu un courrier de Ben Laden et il nous a dit « Travaillez avec nous ». On a dit « Oui, d'accord, bon ben alors voilà ». Pendant ce temps-là, il y a 30 millions d'Algériens qui vivent dans un état lamentable. Les gens n'ont pas où se loger, n'ont pas de travail, n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas très peu à manger, n'ont pas de soins. Ils vivent dans un état de délabrement. L'été, chaque été, il y a des épidémies de maladies dont dans l'humanité a perdu trace. La peste. Il y a 2 ans, il y a eu une épidémie de peste dans la région d'Oran. Mais c'est inimaginable. Juste un petit truc avant de vous donner la parole. L'épidémie de grippe aviaire. Un journaliste demande au ministre en charge de ces affaires-là. Et il lui dit, nous, on n'est pas concernés. Les oiseaux migrateurs ne passent pas par l'Algérie.
Ah, c'est comme le nuage de Tchernobyl.
Voilà, donc bon, maintenant, si vous avez des questions.
Bon, alors à vous.
Je voulais savoir, puisque apparemment, il s'agit aussi de l'exportation de pétrole et de gaz. C'est ça, le chantage, en gros. Je voulais savoir quelles étaient les proportions.
La France officiellement a 30% du marché algérien pour un pays, tout confondu. Mais là, je parle des importations, c'est-à-dire la France envoie ses machines à laver, ses voitures, ses fers à repasser, etc. Et la seule chose, 98% des recettes algérienne dépendent du pétrole. C'est-à-dire que l'économie algérienne a été complètement laminée. Pourquoi? Parce que ces généraux-là ont tous des sociétés d'importation et ils perçoivent 20% sur toute transaction commerciale. Donc, si on produit des choses en Algérie, même s'ils corrompent le propriétaire, c'est des dinars, ça n'intéresse personne. Donc, il est préférable d'importer du matériel de l'étranger et de récupérer 20% en devises qui vont directement dans un compte suisse. Ça facilite la comptabilité. Donc, 98%, vous rendez compte, 98% des ressources algériennes proviennent du pétrole. Et il y a 8 mois, sous la pression américaine, le gouvernement a fait voter une loi. Vous savez probablement que tous les pays producteurs de pétrole fonctionnent sur la base de... C'est des multinationales étrangères, généralement, qui font de l'exploration. Et par exemple, Exxon ou Elf trouvent une nappe de pétrole en Algérie. Les contrats en Algérie ou au Koweït ou en Arabie Saoudite ou au Venezuela, c'est maximum 49% pour l'exploitant étranger et 51% pour le pays où se trouve la nappe de pétrole. Donc ça, jamais personne n'a bravé ce seuil de 50%. Mais le gouvernement algérien a fait voter, sous la pression de George Bush, une loi qui fait passer la part qui va à l'exploitant étranger à 70%. Ça part de 49 à 70. Et on parle à un moment où tous les groupes, toutes les multinationales de pétrole ont dégagé des bénéfices colossaux. Elf a fait total a fait 10 milliards l'année dernière. Ça veut dire que les 49%, c'est déjà énorme. L'Algérie décide de donner comme ça 20% de plus. C'est pas fini, mais c'est 70% minimum.
Minimum.
Et l'Algérie, et c'est l'Algérie qui fait cette loi-là, a 2 mois pour afficher ses prétentions pour les 30% restants. Connaissant la déliquescence de l'administration algérienne, il n'y a aucune décision qui peut être prise en 2 mois. Donc si au bout de 2 mois, l'Algérie n'apporte pas les preuves de sa volonté d'investir en proportion, les 30% vont à l'exploitant étranger. Ça veut dire 100% d'une nappe de pétrole découverte par les Américains. À ce train-là, d'ici 20 ans, le Sahara algérien sera à toute fin pratique américain, parce que les Français, ils pèsent que dalle là-dedans. Sur le plan humain, les Algériens sont déjà interdits dans le Sahara. Pour aller là-bas, il faut avoir, pas un passeport, mais il faut avoir une invitation ou en tout cas avoir une preuve qui explique la raison de la présence sur ce territoire-là. Mais il y a quand même une population qui vivait là, Hassim et Saoud, dans les puits. Et qu'est-ce que le gouvernement, donc ce gouvernement de Bouteflika, a décidé de faire ? Il a décidé de leur construire une nouvelle ville loin. C'est-à-dire que ces Bounioul gênent les Américains qui vont et viennent, alors on va leur construire une villa, ils dégagent. À un moment où quelque chose comme, il y a un déficit, quelque chose comme 10 millions de logements en Algérie, les gens qui ont subi le tremblement de terre dans l'Algérie vivent encore dans des tentes, dans des baraques, dans des containers. Et c'est pas pour ces gens-là qu'on construit des logements, on construit une maison pour évacuer les gens de Hassim Saoud. Donc, vraiment, il y a une volonté de mettre main basse sur toutes ces ressources. Alors, imaginez ce qui va se passer le jour où les 98% des ressources des Algériens tombent entre les mains des multinationales américaines. On va espérer que George Bush montrera un peu de clémence et nous enverra des sacs de riz. Oui.
Non mais attends.
C'était le rapport France-Algérie au niveau des intérêts pétroliers et gaziers. Là, vous dites qu'en fait les Français, ils n'ont aucun intérêt.
Ah non, non, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas aucun. Là, jusqu'à présent, c'était la France. Les Américains, ils ne savaient même pas où se trouvait l'Algérie. Mais avec la nouvelle donne, avec George Bush qui arrive au pouvoir, avec l'Irak, etc., Bouteflika, il est élu. La première chose qu'il fait, il va aux États-Unis, il dit à George Bush, je veux offrir l'indépendance énergétique aux États-Unis. C'est en train d'être fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que la France qui soutient ce régime est aujourd'hui concurrencée par les Américains, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont en train de se tirer une balle dans les pieds. Mais ils peuvent strictement rien faire parce que s'ils lâchent ce régime, demain, des anciens présidents, des futurs présidents, des candidats, des responsables de police, des animateurs de journaux télévisés, des grands patrons de chaînes seront appelés à la barre du tribunal international pour complicité de crimes contre l'humanité. Il est hors de question que ça arrive. Donc ce régime-là doit être soutenu, même si sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan des rapports humains, sur le plan de l'immigration, sur le plan... la France perd sur tous les chapitres. Mais ils sont obligés quand même de continuer à le soutenir.
À vous, monsieur.
Alors, dans le film, il y a un passage là où il parle d'une caisse de compensation
Ça ah c'est un autre sujet. Ça c'est un autre film.
C'est Clear Stream, ça.
Oui, Clear Stream.
C'était un autre sujet.
Ouais.
Mais c'est un autre sujet.
Mais dans le même ordre d'idée, puisque ça vous intéresse, en 1900, donc quand les généraux ont pris le pouvoir ouvertement, ils étaient au pouvoir avant, ils l'ont été après, mais là, en 92, ils ont organisé un coup d'État et il leur fallait une caution politique. Ils ont été chercher Boudiaf. Ils l'ont cherché en janvier. En juin, ils l'ont buté devant toutes les caméras de télévision du monde. Pourquoi ? Parce que il a voulu assainir, et il a dit, vous m'avez fait venir ici, c'est pour aider mon pays. Bon, il a commencé il a lancé quelques enquêtes de corruption. Et il a envoyé trois bonhommes ici en France. Oui, mais ça c'est plus tard. Donc, il a envoyé trois émissaires auprès du ministre des Finances français, qui était Pierre Bérégovoy. Et il faut savoir que au ministère des Finances à Bercy, toutes les corruptions qui sont cachées pour le commun des mortels sont consignées parce qu'il faut payer des impôts dessus. Donc à Bercy, il y a la liste de tous les corrupteurs et le montant des corruptions. Donc, il a envoyé trois bonhommes pour enquêter. Ils sont arrivés ici, on ne leur a pas dit grand-chose, mais à Alger, ils reçoivent un coup de fil, on leur dit à tel, tel et tel qui est en train de poser des questions bizarres au ministère des Finances. Ils sont arrivés à Alger, une semaine après, ils étaient butés tous les trois, et un mois après, le président algérien était buté donc Boudiaf était assassiné lors d'une conférence de presse, comme tout le monde sait. Donc,
La liste des corrupteurs, comme tu dis, en fait, c'est ce que la campagne des choix de paix demande aussi de connaître. C'est quand il y a des gros marchés qui sortent, il y a une campagne dont survit a apprécié de soutenir, qui demande la publication pour le grand public des touchables.
Mais secret d'État, tout ce qui est dérangeant, tout en France, tout peut être estampillé secret défense et on.
Quand tu parlais du Sahara, est-ce que c'est le secteur où les Sahraouis étaient présents?
Non, c'est Sahara algérien, ça. On est en Algérie là. Il faut savoir que 90% de l'Algérie, c'est le désert, c'est le Sahara, et que la population vit sur une bande de terre de 5 km de profondeur. Voilà, donc c'est un territoire, c'est une sorte de territoire où la loi de la jungle est organisée. Et puis, bon, il y a le sud, pour des raisons de sécurité, interdit de circuler. Et puis, il y a une sorte de réduit à l'ouest d'Alger qui s'appelle Club des Pins, où toute cette nomenclature a vie, où les Algériens sont interdits. Et chaque année, ils agrandissent un petit peu le territoire et ils sont en train de reproduire le schéma que... au moment de la colonisation, de la conquête coloniale, la France, au départ, quand ils sont partis en Algérie en 1830, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire. C'est une fois sur place que les choses ont été improvisées. Et à un moment donné, la question était de savoir s'il fallait faire une colonisation restreinte, c'est-à-dire prendre juste les terres intéressantes, la Mitidja, Alger, jusqu'à Oran, et puis laisser le reste à l'émir Abdelkader, ou alors une colonisation étendue. Donc actuellement, il y a une colonisation restreinte qui, avec le Sahara inclus.